BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Merci de nous faire confiance jour après jour. On vous accompagne tous les matins, deux heures durant, pour vous permettre de gérer au mieux votre argent. Et on commence bien évidemment par le suivi de l'actu éco. Et c'est avec Stéphanie Collot.
BFM Business, l'info éco.
Et à la une, le déficit commercial se stabilise à 9,2 milliards d'euros en avril, un chiffre identique à celui du mois de mars. Au total, sur le mois, la France a exporté pour 50 milliards d'euros de biens et en a importé pour 59 milliards. En Chine, les exportations reculent fortement en mai, moins 7,5% sur un an. Et c'est une première depuis trois mois, en cause la crainte de récession aux États-Unis et en Europe et l'inflation qui pèse sur la demande international en produits chinois. La douane chinoise qui annonce par ailleurs que le commerce entre la Chine et la Russie est au plus haut depuis le début de la guerre en Ukraine avec plus de 20 milliards de dollars d'échanges commerciaux. L'OCDE relève légèrement sa prévision de croissance mondiale cette année de 2,6 à 2,7%. En revanche, elle devrait accélérer très légèrement en 2024 à 2,9%, conséquence des hausses de taux d'intérêt des banques centrales qui pèsent sur l'investissement privé. On en vient à la création de France Travail. Le projet de loi est examiné aujourd'hui en Conseil des ministres. L'organisme devient le guichet unique pour les demandeurs d'emploi en remplacement de Pôle emploi, avec comme objectif de ramener le taux de chômage sous la barre des 5%. Une simplification qui est la bienvenue, selon Alexandre Virros, le président France d'Adecco, était l'invité de Good Morning Business.
Je dirais qu'il y a une obligation qui est presque collective, peut-être citoyenne, mais vraiment avec un impact économique et social, d'avoir une logique, disons, pour faire simple, de guichet unique.
De parcours candidat.
Oui, de parcours candidat. Et là déjà, si on simplifie, vous simplifiez. On parle des ruptures de charges. C'est comme en transport. Hein. Si vous voulez, vous ratez le changement de train quand il y en a trop, quand il y a trop de changements. Bah là, c'est un peu la même chose sur l'emploi. Il faut simplifier ce parcours.
De leur côté, les députés se prononcent aujourd'hui sur le budget des armées. Ils prévoient une enveloppe de 413 milliards d'euros sur 7 ans pour faire entrer la France dans une économie de guerre et moderniser le secteur, soit une hausse de 40% par rapport à la précédente loi de programmation militaire. Un rejet du texte paraît peu probable. En revanche, il n'y aura pas de vote ce jeudi sur l'abrogation du texte de la réforme des retraites. Déclaration de Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale ce matin sur RMC. Une proposition de loi déposée par le groupe indépendant Lyot devait être examinée demain. Et puis dans l'actualité entreprise, Atos revoit la hausse ses perspectives 2026 pour sa branche Tech Foundations. Elle devrait atteindre 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024 contre 4 milliards et demi l'année dernière et renouer avec la croissance en 2026. La marge devrait s'établir entre 6 et 8% dans 3 ans. Le groupe est en discussion avec Daniel Kretinsky pour lui vendre cette division. Et puis le géant espagnol Inditex ne connaît pas la crise. La maison mère de Zara publie un bénéfice net en hausse de 54% au premier trimestre à plus d'un milliard d'euros contre 760 millions au premier trimestre 2022. Et c'est le meilleur résultat jamais enregistré par le groupe sur cette période, Cédric.
Merci beaucoup Stéphanie Collot, que l'on retrouve dans une heure pour suivre cette actualité économique. Et nous tout de suite, on file à la bourse.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et c'est Antoine Larigauderi que l'on retrouve comme chaque matin depuis le siège d'Euronext à La Défense. Bonjour Antoine, quelle est la tonalité de cette
Bonjour,
séance
Cédric.
De milieu de semaine ?
C'est encore le bourbier, on va dire. On avait un CAC 40 qui avait tendance à hésiter autour des 7200 points. Et puis finalement, la baisse l'a emporté après une ouverture quasiment à l'équilibre. Une très petite hausse hier. Donc là, du coup, moins 0,34%. Et on tombe à 7184 points. On a des performances équivalentes du côté des autres indices, notamment le DAX à Francfort qui perd 0,3%. Même score pour l'Eurostox 50. Rien de spécial à signaler. On est dans un marché très calme qui peine à engranger des volumes. Hein. On est à 250 millions d'euros d'actions négociées là en ce moment sur le CAC 40. Donc vraiment une séance encore une fois très très peu active. Il y a un facteur qui commence à intriguer tout le monde et qui est vraiment notable, notamment du côté des marchés américains. C'est cette très forte baisse de la volatilité. On a un indice VIX qui a clôturé hier sous les 14 points. Là ce matin on revient un tout petit peu au-dessus. Mais on est sur des plus bas qui datent d'octobre 2019. 9 maintenant. Hein. On a vraiment des marchés très très peu volatiles, donc assez peu attractifs pour un certain nombre d'investisseurs qui font des arbitrages. Et ça, vos experts l'ont sans doute vu et signalé. C'est vrai qu'on a des marchés de moins en moins volatiles, et donc où il est très difficile maintenant de déceler des dynamiques. Alors il y en a un tout petit peu plus sur le marché obligataire, où il y a eu des mouvements assez nets hier. Là, pour l'instant, c'est plutôt calme ce matin. On reste sur les niveaux de clôture d'hier soir. Enfin voilà, on reste dans un marché quand même très très atone. À noter les baisses du jour. Worldline qui recule d'1,26%, c'est le plus fort repli du CAC 40. On est à 36,87 €. Noter Hermès qui consolide d'1,13%, tombe sous les 1900 €. On est à 1893. Carrefour recule de 0,9% à 16,61 €. Et Michelin, moins 0,9% à 27,02 €. Pas de préférence sectorielle bien précise. On voit des valeurs de croissance, de la tech, mais aussi des valeurs un petit peu plus défensives qui sont en repli. Les hausses du moment, Téléperformance plus 1,3% à 140,75 €, Vinci plus 0,4 à 107,42 €, Orange plus 0,28 à 10,72 €, la plus forte hausse du SBF 120. On a repris la spéculation autour de Casino, en tout cas, qui gagne 7,3% à 5,54 €. Le CAC donc moins 0,39%, 7181 points, et l'euro 1,0681, Cédric.
Antoine Larigauderi, chaque matin, pour suivre cette amorce de séance depuis la salle de contrôle du CAC à la Défense. Merci Antoine. Les actions continuent d'occuper la une de BFM Patrimoine. On s'intéresse tout de suite à la cote parisienne.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zépipo.
Avec Mathias Desmarais, qui est notre guide ce matin depuis Oddo BHF. Bonjour Mathias.
Bonjour Cédric.
Vous nous proposez ce matin un éclairage sur Mersenne. On commence par un petit portrait.
Oui, tout à fait. Donc Mersenne, c'est un expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés pour les industries high-tech, avec une répartition géographique assez équilibrée entre les différentes régions du globe.
Voilà donc pour la description de cette entreprise Mersenne. Quel est le premier point qui retient votre attention ce matin ?
Alors, c'est la nouvelle feuille de route qui a été présentée par le management fin mars, hein, qui repose sur des marchés à fort potentiel, hein, principalement celui des semi-conducteurs, des véhicules électriques et des énergies renouvelables avec le solaire. Donc, c'est ces nouveaux marchés qui représentent d'ores et déjà à peu près 27% du chiffre d'affaires du groupe devraient croître pour atteindre quasiment la moitié du chiffre d'affaires d'ici à 2027. Donc, un positionnement sur des marchés à forte croissance.
Les objectifs précédents ont été atteints déjà ou...
Alors, ils ont pratiquement été atteints. Le principal objectif, c'était 1,2 milliard de chiffre d'affaires en 2025, et on y sera quasiment cette année. Et donc, pour l'avenir, Mersenne vise désormais un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,7 milliard en 2027, soit un taux moyen de croissance annuelle de l'ordre de 8%. Et au niveau du résultat d'exploitation, on devrait avoir une croissance à deux chiffres, de l'ordre de 10 à 12%, donc une feuille de route assez claire et assez bien balisée.
Pour ceux qui suivent déjà ce titre, il y avait eu une augmentation de capital. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ?
Alors, suite à l'augmentation de capital, hein, vous avez tout à fait raison, le management aujourd'hui dispose de toute la latitude pour réaliser son nouveau plan 2027, hein, y compris un plan de M&A de l'ordre de 100 millions d'euros. Et elle permet, entre autres, hein, de maîtriser le levier d'endettement que nous estimons atteindre un maximum de 2 fois en 2025. Et ce niveau de 2 fois s'inscrit pile dans le milieu de fourchette de 1,5 à 2,5 fois retenu par le management.
Un petit point peut-être, ESG aussi, c'est quasiment inévitable aujourd'hui de passer ces boîtes à travers ce crible. Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Alors, inévitable et incontournable en effet. Le profil de Mersenne est très attractif pour les investisseurs en recherche de valeur à impact. Et aujourd'hui, la stratégie RSE du groupe nous paraît très cohérente, bien équilibrée, en considérant bien évidemment la taille de la société.
Et puis, on ne peut pas évoquer un titre sans parler de son parcours, de sa valorisation, et puis que vous nous livriez un petit peu votre sentiment. Qu'est-ce qu'on en dit ?
Alors aujourd'hui, Mersenne se traite à peu près 10 fois le résultat d'exploitation. C'est assez attractif, c'est une décote de l'ordre de 15% par rapport aux moyennes historiques du groupe, et c'est pour ça que nous on est assez positif sur le titre, et on vise un objectif de cours à 48 €, soit un potentiel de plus de 25%.
Et oui, parce que le titre cote 38 € ce matin, en hausse d'1,33%. Merci beaucoup Mathias. Mathias Desmarais, donc, depuis Oddo BHF, sur le titre Mersenne ce matin. Le marché parisien, lui, est en petit repli de 0,4%, 7178 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Et c'est Bastien Drue que l'on retrouve depuis CPR AM. Bonjour Bastien.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Mercredi, jour des demandes hebdomadaires d'allocation chômage aux États-Unis. On a eu le rapport mensuel récemment. Ouais. L'occasion donc de faire un point sur ce marché de l'emploi américain. Que peut-on en dire, Bastien ?
Effectivement, l'actualité macro pour les États-Unis est assez maigre cette semaine. Et le seul chiffre vraiment important cette semaine aux États-Unis, donc on a eu l'ISM service lundi, mais sinon, l'autre chiffre vraiment important cette semaine, c'est les inscriptions à l'assurance chômage. Alors, on a eu une hausse des inscriptions à l'assurance chômage en début d'année, mais ça s'est un petit peu stabilisé sur les dernières semaines. Et en fait, ces derniers temps, on a eu plutôt des signaux de résilience du marché du travail américain. Et dans le rapport sur l'emploi de mai que vous mentionnez, qui a été publié vendredi dernier, il y avait encore 339 000 créations d'emplois, ce qui reste un rythme de création d'emplois qui est solide. Alors, malgré ça, il y a des signaux qui sont quand même un peu contradictoires, parce que ce même rapport sur l'emploi, qui indique donc 339 000 créations d'emplois, il indique quand même aussi 440 000 chômeurs de plus, avec un taux de chômage qui passe de 3,4% à 3,7%, et une hausse de 3 dixièmes, c'est très rare et ça n'arrive pratiquement que en période de récession. Il y a d'autres petits éléments qui sont négatifs dans ce rapport sur l'emploi. Par exemple, sur les 7 derniers mois, eh bien, les heures travaillées ont baissé 5 fois, donc c'est quand même pas un bon signe pour l'activité si eh bien, les entreprises demandent aux employés de travailler moins de temps. Même chose, hein, si on regarde le nombre travaillé moyen par semaine, on est tombé à 34,3 heures et c'est le niveau le plus bas depuis 12 ans, si on accepte bien sûr la période de confinement. Et pour finir, pour les salaires, on pourrait se réjouir que le salaire horaire moyen progresse encore d'environ 4% en annualisé. Mais le salaire horaire moyen, c'est pas ça qui tombe sur le compte en banque des employés. Pour ça, il faut multiplier le salaire horaire moyen par le nombre moyen d'heures travaillées. Et là, on a quand même une très forte décélération. Et ça va finir par se traduire sur la consommation. Et c'est déjà quelque chose qu'on voit hein, sur la consommation américaine. On n'a pas du tout d'effondrement. En revanche, on a une décélération lente mais sûre depuis, sur les dernières semaines.
Merci beaucoup pour cette lecture effectivement de ce marché de l'emploi américain. Et on suivra donc cet après-midi les demandes hebdomadaires d'allocation chômage. Bastien Drue depuis CPR AM.
BFM Business, BFM Patrimoine, le club IMO.
Le club de la presse IMO qui réunit aujourd'hui Pierre Chevillard et Pascal Bonnefille. Bonjour messieurs.
Bonjour Cédric. Bonjour Cédric.
En compagnie bien sûr de Marie Cœur de Roy. Bonjour Marie.
Bonjour Cédric.
Merci à tous les trois d'être là. Pierre pour PAP, Pascal pour IMO Week. Et on va se pencher assez longuement sur... le CNR.
Pas content, ouais. Pas content.
Voilà. C'est un peu ça. Vous n'avez pas vos banderoles, là, d'ailleurs. Vous avez
c'est surréaliste.
Vos panneaux pas contents.
Il n'y a même plus de... Voilà, on n'arrive plus.
Alors, Pierre. Le gouvernement crée un Conseil national de la refondation sur le logement, parce que le logement, c'est un secteur qui est malade depuis très longtemps. D'ailleurs, ça fait depuis 86 ou 87 qu'on le met sous perfusion, avec des aides, MNRI, PTZ, enfin voilà, chaque ministre...
Ministre, Périssol,
Pinel, donc,
pendant 6 mois. Besson, enfin bon bref, on connaît tous.
On réunit tout le monde pendant 6 mois, ils travaillent beaucoup, ils font beaucoup de propositions, et donc, on a eu un brief technique avec les services de la Première ministre dimanche soir, et la Première ministre a annoncé donc les mesures... Un plan de relance pour le logement, ben, au bout du compte, il y a très peu, pratiquement pas, de mesures du Conseil national de la refondation qui ont été reprises. Et ce que la Première ministre a annoncé, en fait, c'est un plan d'austérité, puisque à plus ou moins brève échéance, on supprime les deux principales aides qui sont le prêt à taux zéro pour l'accession à la propriété et le dispositif Pinel pour l'investissement locatif. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on se dit, c'est que le secteur, il est malade depuis très longtemps. Il y a une perfusion depuis très longtemps. On va faire des économies. On va débrancher la perf. Comme ça, plus de malades, plus de problèmes.
Ouais. Comme ça, on va l'achever un peu.
Oui, c'est ça.
Mais ce qui était très, très intéressant, c'était d'entendre la Première ministre, si vous voulez. D'abord, elle est arrivée toute fin, elle a écouté personne avant. Bon, elle a un agenda très chargé, j'en suis sûr, bien sûr. Mais elle arrive, et d'un ton quand même très très monocorde, on voyait bien qu'elle lisait un texte qui avait dû être très préparé par ailleurs, mais qui venait pas trop du cœur, entre guillemets, je sais bien que le problème du cœur est pas trop le problème de la politique, mais quand même. Et il y avait une espèce de côté, pardon du mot, hein, je voudrais pas être très très agressif vis-à-vis de la Première Ministre, mais je m'en fous. C'est-à-dire qu'il y avait le côté, je débite un texte comme ça, tristounet, et qui ne vous annonce que des mauvaises nouvelles, d'ailleurs, je suis obligé de vous le dire, mais même sans justification. Et c'est ça que je trouve très, très intéressant. Et
on en a parlé plusieurs fois. Parce qu'on a souvent,
oui.
plein de typologies d'acteurs,
oui.
Pourfendu parfois ce que coûtaient les aides au logement, tout confondu.
Tout à fait.
Mais à chaque fois que ces argumentaires venaient, il y avait quand même un calcul simple qui était de prendre une balance,
et combien ça rapporte,
de mettre tout ce que ça coûtait et, voilà, et tout ce que ça rapportait. Et le fléau de la balance,
oui,
n'a et jamais été négatif.
Tout ce que ça coûte socialement, oui, non, de non, ne pas faire aussi, parce que socialement et économiquement, il y a les deux dans cette histoire. Mais moi,
non, mais je parlais.
Oui.
Déjà, si on s'en tient, un enjeu purement financier.
Voilà, rapport financier.
Voilà, mais si on reste sur
le tableau, effacer les sourires.
On sent bien que tout ça n'a plus aucune importance. Ouais, oui. Et on sent bien aussi, encore une fois, nous, on est quand même des observateurs, même si Marie est une observatrice très engagée, elle a raison. On est des observateurs et on constate que quand même le lobby, on va dire, c'est quand même des lobbies, enfin du bâtiment, celui des promoteurs, etc., jusqu'à présent, était de temps en temps entendu. Là, vraiment, on a vu en direct le fait que ces lobbies, qui sont quand même très actifs depuis plusieurs mois maintenant, ne servent maintenant plus à rien.
Même le social, pardon.
Oui, même les bailleurs sociaux. Mais justement, je voudrais rebondir sur ce que
surtout que Marie nous serine depuis un moment, tout le monde est aligné.
Et je voudrais rebondir là-dessus pour dire à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent un peu les coulisses de notre émission. D'abord, j'en profite pour annoncer une émission un peu spéciale vendredi. On a une heure qu'on va consacrer au logement dans le cadre de BFM Patrimoine, donc entre 10h et 11h.
Bonne idée.
Et quand on fabrique des plateaux, et comme ça on
vendredi,
raconte, donc vendredi, quand on fabrique des plateaux, on cherche à entendre toutes les voix, c'est-à-dire les pour et les contre. C'est la base de notre métier.
Normal.
C'est essayons, même si on éditorialise quand même, c'est vrai, mais essayons d'être le plus objectif possible. Et là, en l'occurrence, hormis à sortir du chapeau des députés macronistes ou le gouvernement, hein, Olivier Klein, la Première ministre, machin, dans les acteurs du secteur. Et effectivement, c'est là où vous avez parfaitement raison. Il n'y en a aucun qui considère qu'il a été entendu, que ce soit les bailleurs sociaux, que ce soit les constructeurs de maisons, évidemment, que ce soit les promoteurs immobiliers, que ce soit les courtiers en crédit, que ce soit personne. La Fondation Abbé Pierre, Véronique Bédague, c'est intéressant de les entendre, ces deux co-animateurs du CNR,
qui sont quand même dans deux secteurs très différents.
Avec deux intérêts très, très différents, même si on sait que finalement c'est assez lié. Mais
bien sûr.
Et quand on fait l'unanimité contre soi, en fait, nous, on est dans cette problématique où, évidemment, donc écoutez-nous vendredi, je pense que ça va, ça va moins clasher entre nous, mais ça va peut-être sans doute attaquer les décisions.
Il y en a qui vont avoir les oreilles qui sifflent.
C'est ça, exactement. Mais en réalité, c'est ça la question qu'il faut se poser. C'est quand on arrive, et puis en plus, même en dépit même, pour le coup, de convictions politiques, nous, on reçoit des gens de gauche, de droite, tout le monde est d'accord pour dire ça ne va pas et on est à l'aube d'une crise. On n'est même pas à l'aube, en fait. On est en plein dedans.
Marie, cependant, notons-le quand même sur le plan politique, il n'y a pas énormément de réactions de l'opposition. On pourrait imaginer que l'opposition soit très vent debout.
Il y en a eu quelques-unes.
Oui,
il n'y a pas eu d'applaudissements. Je pense à Stéphane Peu, par exemple.
On est d'accord. On n'a pas eu d'applaudissements. Ça, je suis d'accord. Mais il n'y a pas eu non plus une mobilisation très très forte.
Mais ça, c'est le problème. Alors moi, c'est ça que j'ai du mal à. Alors si je finis, je commence à commencer à trouver des explications. Mais le problème du logement, en fait, c'est que soit vous n'aidez pas justement les plus pauvres qui sont à la rue et ils ne sont pas en capacité de se mobiliser. C'est un drame. Soit vous touchez finalement au petit propriétaire qui l'est déjà. Alors c'est là où moi je mets un petit bémol sur ce qui est en train de se passer. C'est que là typiquement, le petit propriétaire, alors je résume grossièrement, mais je pense qu'on n'est pas très loin du gilet jaune, et là ça pourrait quand même avoir un écho. Je veux dire, toucher au prêt à taux zéro avec des gens qui pouvaient potentiellement des gens plutôt modestes qui pouvaient faire construire leur maison,
accéder à leur maison individuelle.
Et là, ils ne l'auront plus. Toucher au Pinel, faire mourir le Pinel, qui touchait quand même aux petits propriétaires aussi. Alors, il y avait des serial entrepreneurs, on est d'accord, qui en faisaient un business. Mais il y en avait aussi, qui faisaient. Et puis, on rappelle que le Pinel, après, c'est des loyers plafonnés. Donc, on crée quand même une offre locative à loyer modéré. C'est quand même pas inintéressant pour les autres derrière. Peu importe. Mais ces propriétaires-là, je pense que eux, ils payent des impôts, c'est pour ça qu'ils faisaient du Pinel. Ils sont en capacité de se mobiliser aujourd'hui. Et je souhaite que, oui, ils puissent renvoyer aussi, aussi la parole de la Fondation Abbé Pierre, qu'on entend, à mon sens, beaucoup trop peu, parce que, oui, on compte les 4 millions de mal logés, on compte les 2 millions et demi de demandeurs d'un logement social aujourd'hui. Personne n'a été écouté.
Oui, mais Marie, je crois vraiment qu'on est face à un sujet, et on le voit bien sur le fait que les gens, même le monde politique, ne se mobilise pas tant que ça sur ce sujet qui est vu comme un sujet technique, est vu aussi comme un sujet. Il y avait une très bonne chronique dans Le Monde, ça ne vous étonnera pas bien entendu, de Philippe Escande qui disait « Le lobby de la machine à rêve sur écran est plus puissant en France que celui de la construction ». Parler des terrains de Bry-sur-Marne, de Nexity, ils viennent d'être vendus. Ouais. Et c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la construction, d'une manière globale, eh bien, elle est vue de manière négative par beaucoup, beaucoup de gens. Alors, ça va sur tout le spectre. Hein. Et moi qui suis un vieux, qui pense quand même que si on ne construit pas, eh bien, on ne pourra pas loger les gens, eh bien, ce qui me paraît être une évidence. Oui, mais il y a beaucoup de gens pour qui cette évidence, elle a disparu, elle n'existe pas. Et regardez le résultat en direct sous nos yeux, c'est qu'au fond, bon, on se dit, bon, voilà, le système va s'effondrer, on va avoir beaucoup moins de construction, et ben c'est très bien comme ça.
À tel point que c'est un obstacle pour la réindustrialisation, parce qu'on nous parle beaucoup de la réindustrialisation. Vous prenez Dunkerque avec cette énorme usine de batterie qui va voir le jour. Vous les logez où, les gens, là-bas?
Ah mais moi c'est ce que je me tue à dire.
On est bien d'accord.
C'est ce que je me tue à dire.
Vous allez loger en Belgique quand vous avez des gens qui gagnent un smic et demi, enfin deux smic et demi, trois smic et demi, et qui allaient faire construire leur petite maison dans des lotissements qui, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas des opérations immobilières qui mangent les forêts, les terres agricoles. Il y a tout un fantasme là-dessus.
Bien sûr, la suppression
du prêt à taux zéro, en fait, on tape sur la maison individuelle parce qu'on l'accuse de tous les maux. Enfin, voilà, c'est comment est-ce que vous réindustrialisez si vous ne pouvez pas loger les gens? Vous me dites, vous allez les mettre dans le social, il va falloir attendre quoi? 2 ans, 3 ans? Il y a 2 400 000 demandes de logements sociaux.
Et puis on n'en construit pas en ce moment.
Et puis, Et puis la crise de la promotion, c'est Pascal Boulanger, le président de la FPI, qui nous dit ça, c'est-à-dire que les promoteurs fabriquent 54% des logements sociaux en France. Donc s'il n'y a plus de promotion, c'est-à-dire qu'ils ont besoin effectivement des aides parce que le neuf est très cher et très taxé, donc si la promotion chute, le logement social chute. Tout est lié. Cet effet domino, cet effet de cascade, il est complètement. Oui, c'est ce que je suis d'accord avec Pascal, avec Marie. C'est-à-dire qu'on a l'impression, finalement, que bon, bah, vaille que vaille, on va s'en débrouiller, c'est pas très grave.
Mais là, je pense qu'on est tellement sur une crise grave avec des chiffres qui vont être dramatiques. J'ose espérer, c'est moche ce que je dis, hein, mais j'ose espérer qu'on va toucher tellement le fond de la piscine.
Il faudra rebondir.
Que là, il y aura quand même une prise de conscience et puis une mobilisation générale. Je dis ça à ma petite échelle, je pense que sur BFM Business, et puis dans nos canards respectifs, on était quand même très alertes depuis des mois.
Et bravo à vous, Marie, on se voit à l'antenne. Non, mais si, c'est vrai. Vraiment, Marie est vraiment une de celles qui agissent vraiment sur ce sujet. Alors, il y a un moment où ça finit par passer.
Et regardez, c'est pour ça que je parlais de ça, c'est que regardez sur les grands médias généralistes, on voit quand même que ça commence à apparaître, mais on commence à en parler.
Alors qu'on n'en parlait pas.
Ok, c'est la mouise.
Oui, là, on est
mais est-ce qu'il y a quand même, quelque part, un petit détail, une virgule, un demi-paragraphe, de quelque chose, on se dit, tiens, bah ça, s'il n'y avait pas tout le reste, on pourrait s'en réjouir.
Alors, par exemple, vous avez la mensualisation du taux d'usure. Le taux d'usure, c'est le niveau qu'un taux tout compris ne peut pas dépasser.
Ça, on l'a cherché, on l'a poussé, on l'a soutenu.
Le coût de l'argent est très cher. Les taux remontent et le taux d'usure, comme on ne peut pas dépasser, les banques, ça coince. Ça coince. Donc, on le publie mensuellement plutôt que tous les 3 mois parce que ça permet aux banques de réajuster et de courir vers à nouveau la rentabilité des crédits immobiliers. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Or, en fait, c'est tout simple. C'est que c'est une mesure d'accompagnement de la hausse des taux d'intérêt qui n'ont pas fini de monter. Que de cette bonne nouvelle de remontée du taux d'usure, finalement, oui, ça va permettre aux banques de retrouver de la rentabilité sur le crédit immobilier parce qu'elles doivent gagner de l'argent. C'est des commerçants comme les autres. Mais ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, on est sur un 20 ans moyen à 3,80 à peu près. Ça veut dire que cet automne, on sera à 4,50.
Ouais, et donc, pourquoi Pierre parle de ça? Parce que donc, le gouvernement dit on va maintenir cette mensualisation qui devait s'arrêter en juillet, on va la maintenir sur le reste de l'année. Mais en fait, c'était trop bien trop tard, quoi.
Oui, c'est-à-dire
que ça faisait un an et demi que les courtiers disaient ça bloque. C'était intéressant quand on était autour de 1,5, 2% de taux d'intérêt. Parce que là, effectivement, on aurait pu avoir des petites échelles de hausse de taux qui auraient permis à délivrer du crédit immobilier. Or là, on avait des blocages. Aujourd'hui, c'est trop cher le crédit. Les prix baissent pas assez. Donc là, la mensualisation qui va perdurer, c'est pas une mauvaise nouvelle, mais ça va rien changer.
Il y a une bonne petite nouvelle très techno. C'est qu'ils vont s'intéresser de plus près à toutes les
statistiques en matière de logement, de construction, etc., pour faire vraiment de la data autour de cette question. Et là, ça ne serait pas idiot qu'on ait vraiment... Oui, oui, oui.
Bah, c'est-à-dire qu'ils connaissent rien.
Oui, c'est un certain aveu, on est bien d'accord. Ce qui serait pas mal, c'est que demain, on en sache un peu plus.
On a entendu comme argumentaire quand même aussi c'est de cher, dire qu'il y a un stock de logements trop important et il faut apurer un peu tout ça. En repartant sur ce que disait Marie tout à l'heure, en disant finalement, si on fait un peu table rase, on va au fond de la piscine, là, pour... Est-ce que ça ne veut pas se dire que, passé cette énorme crise, dont on ne se réjouit pas, mais est-ce que ça ne veut pas dire que quelque part, on repartirait sur des bases plus saines pour construire un marché...
Sans promoteur ?
Je sais pas, je pose la question.
Bah c'est ça le problème, c'est qu'on va tuer tout le monde en fait. Vous voyez, 300 000 emplois dans 2 ans qui sont menacés, et je vous parle même pas du reste. C'est là où nous, on s'interroge sur les calculs de l'État. C'est-à-dire à quel moment, parce qu'au-delà du fait de l'IMO, ça rapporte tant en aide, enfin ça coûte tant en aide et ça rapporte tant en fiscalité. Ok, d'accord. Très concrètement, on a un gouvernement qui aujourd'hui même nous présente son projet de loi pour le plein emploi. Quand on a des fédérations de secteurs bâtiment, bon sang, qui vous disent. Et bien là, c'est 300 000 emplois menacés à échéance 2 ans. Et derrière, qui vous explique que vous faites une usine, vous la financez à 3 milliards d'euros, parce que l'État met 3 milliards dans une usine là cette semaine. Hein. On l'annonce super, 3 milliards, on va créer 1 000 emplois. Okay, il y en a 200 000, 300 000 qui sont menacés par ailleurs. C'est pas grave. Comment on les loge, les emplois? Et puis, enfin, juste à un moment donné, ça va être c'est ça le sujet. C'est vous avez des entreprises quand il y a Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, qui interpelle l'État en disant nous on a une vraie problématique au niveau de nos entreprises et du logement de nos salariés. Comment voulez-vous qu'on recrute, qu'on fasse bouger nos talents si on n'a pas de quoi les loger en fait. Donc c'est là où nous on est un petit peu, on sait plus quoi dire en fait. C'est à quel moment on peut fixer des tels objectifs mais en détruisant toute une filière avec des impacts considérables, mais sur tous les Français. C'est pas juste 300 000 emplois. On a combien de Français en France qui travaillent, en fait?
Et puis, le problème c'est que ce sont des conséquences à moyen terme. C'est-à-dire que
moyen long
terme. Donc la conséquence court terme, ce qui est quand même un sujet pour un gouvernement, évidemment, est moins évidente.
Mais surtout donc, qu'en plus, on en parlait en rondelle.
C'est au centre de tout. Les retraites, la transition écologique, la santé dans l'habitat, la qualité de vie,
tout ça est lié,
l'emploi, c'est au centre de tout.
Il peut y avoir un effet pervers, mais c'est pour que tu le dises, Pierre, ce que tu me disais hors rondelle sur l'effet d'aubaine.
Alors, c'est ça. En fait, la seule chose positive qu'on peut voir, c'est que comme vous avez des dispositifs qui vont s'arrêter, le prêt à taux zéro pour la maison individuelle d'ici la fin de l'année, les banques vont arrêter pour des raisons techniques de gestion des dossiers de le distribuer début novembre. Et la fin du Pinel en 2024, on peut dire que c'est le moment. Donc peut-être qu'il y aura un petit rebond avec un effet d'aubaine. Et les gens vont se dire, finalement, c'est le moment d'aller voir le banquier, le courtier, le promoteur pour voir si c'est faisable.
C'est monstrueux parce qu'on va nous dire après, derrière, on va avoir un État
regardez,
qui va nous dire...
Sont bons.
Mais regardez, on a très bien fait. Regardez, tout va bien.
Bon. Alors là, normalement, les chiffres doivent être bons sur le PTZ de maison individuelle, que là, c'est le moment ou jamais.
À supposer quand même que les banques arrivent à financer, puisqu'un secteur qui souffre beaucoup de la hausse des prix liés à la flambée des matériaux, aux nouvelles réglementations.
Mais il y a quand même une grande appétence.
À l'apport personnel, tout le critère bancaire, c'est compliqué pour eux quand même.
Bon, vous voyez, ça fait parler. Oui. Allez, on marque une pause comme d'hab, on file voir nos traders, on reçoit Nicolas Dose et puis on continue nos échanges immobiliers. Et notez donc d'ores et déjà dans vos tablettes, vendredi matin 10h-11h, cette édition spéciale de BFM Patrimoine autour de ces questions immobilières. À tout de suite.
BFM Business, l'émission 100% placement. BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Allez, on file rejoindre nos deux traders qui auscultent graphiquement la séance chaque jour et qui vous ouvrent leurs écrans. Mathieu Céron et Gilles Santacreux sont au rendez-vous du jour. Bonjour messieurs. Gilles, chez Boursicoté.com, comment voyez-vous cette nouvelle séance qui n'enthousiasme personne?
Oui, vous l'avez bien dit, c'est poussif aujourd'hui. On est vraiment dans une semaine de transition. Il ne se passe pas grand-chose cette semaine, alors qu'on sort d'une semaine qui a été compliquée et qu'on s'aborde la semaine prochaine à aborder des événements un peu plus cruciaux. Très peu de volatilité, très peu de volume. On a du mal à arriver aux 300 millions d'échanges. On est vraiment dans un range autour des 7200 points, cette zone qui était majeure, dont on attendait une cassure qui nous aurait signalé une tendance baissière. Là, on oscille grossièrement entre 7110 et 7270, hein, d'un point de vue court terme. Tant que l'on est dans cette zone, ça va être difficile de dégager un biais porteur directionnel. Donc, ça, tout s'équilibre hein, autour de cette zone des 7200 points. Dans un contexte où les news ne seront pas fréquentes, on attend les taux de la Banque centrale du Canada cet après-midi. Je dirais que ce qui est le plus marquant, c'est le fait que cette petite phase de consolidation que nous connaissons depuis quelques jours, elle est apparue avec justement les problèmes de mur de la dette aux États-Unis. Ce problème a été résolu, mais les marchés ne remontent pas. Donc ça traduit vraiment un certain attentisme par rapport justement aux banques centrales donc, qui interviendront la semaine prochaine. Le problème a disparu, mais les cours ne sont pas remontés. Hein. Donc on est vraiment là, je dirais, dans une phase où personne ne veut bouger avant justement la semaine prochaine. Et donc on risque d'avoir des marchés qui effectivement sont assez peu volatiles et qui nous donnent assez peu d'opportunités justement pour dégager des écarts.
Voilà donc la vision proposée par Mathieu Cérone, Mathieu Cérone, dans quel sens voyez-vous fonctionner ou ne pas fonctionner les choses d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est poussif.
Oui, tout à fait. Les jours se suivent et se ressemblent. Il y a toujours très peu d'initiatives. En témoignent les volumes qui ne dépassent pas quotidiennement les 2,5 milliards d'euros échangés sur le CAC depuis le début de la semaine. Et comme le disait Gilles, pas vraiment de catalyseur dans les prochains jours. La volatilité qui ne cesse de diminuer. Hier, je vous parlais du VIX qui était passé sous les 15. Il est même passé sous les 13 en séance hier. Donc on est sur un plus bas de janvier 2020. Janvier 2020, c'était un mois avant le crack Covid. Donc on est revenu sur des niveaux de volatilité implicite extrêmement bas. Toujours pas de tendance à court moyen terme. La tendance long terme, elle, reste haussière, mais à court moyen terme, eh bien, on tend vers la neutralité. Et c'est pourquoi nous, eh bien, on travaille les deux sens avec une zone d'achat vers 7170, le niveau qu'on a travaillé hier, sur lequel nous sommes replacés ce matin. Et puis une des ventes sur rebond, notamment vers 7235. Et 7235, c'était le niveau qu'on proposait hier matin à 8h. Et il a fallu attendre 22 heures pour que ce niveau soit atteint. Donc on voit bien qu'il se passe pas grand chose. Et il se passe pas grand chose non plus sur l'euro-dollar qui entame une 9e séance consécutive autour des 1,07. Donc là, c'est pareil, hein. Il n'y a pas vraiment de tendance à court moyen terme. La tendance long terme reste haussière. On travaille également les deux sens et il y a quelques instants, on a testé un niveau support assez proche à 1,0670, donc sur lequel des achats peuvent être tentés. Le cran en dessous, c'est 1,063540. Et puis pour ceux qui voudraient tenter des ventes sur rebond, la résistance proche à travailler, c'est 1,073540. Et on pourrait prendre comme petit pivot 1,0770-90, une zone qui avait été parfaitement validé la semaine dernière. Donc des marchés qui sont calmes dans l'ensemble avec toujours une surperformance des marchés américains. Mais attention, le SP500 arrive sur des niveaux de résistance qui sont quand même assez forts. On a une zone 4300-4320 qu'il va falloir franchir pour envisager une poursuite du mouvement haussier.
Merci beaucoup à tous les deux. Donc Mathieu Cérone, Perceval Finance Conseil, et Gilles Santacreux depuis Boursicoté. Gilles qu'on retrouve tout à l'heure à 11h30 pour suivre cette séance. Merci à tous les deux. Le CAC 40 qui perd 0,3%, 7183 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Nicolas Dose, bonjour.
Bonjour.
L'étude choc de l'Institut des politiques publiques à partir de données inédites obtenues auprès de Bercy. L'Institut constate que les plus riches payent proportionnellement moins d'impôts que l'ensemble des contribuables. Quel est le raisonnement ? On précise, ce sont des données de 2016.
Absolument, des données de 2016. On pourrait considérer d'ailleurs que, comme la fiscalité sur le capital a été allégée en 2017, la situation sera encore plus patente aujourd'hui si on actualisait toutes ces données. Ils n'ont pas les données suffisamment récentes pour pouvoir actualiser tout ça. Alors la conclusion a été obtenue effectivement par un travail inédit. Il a fallu recouper pour la première fois les déclarations de revenus des particuliers et les déclarations fiscales des entreprises que ces particuliers possèdent. On arrive à ça. Le 0,1% les plus riches, c'est-à-dire 37 800 foyers qui touchent plus de 627 000 euros annuels, ont un taux d'imposition global de 46%. Mais ce taux va diminuer au fur et à mesure que les revenus progressent, jusqu'à atteindre 26% pour les 75 foyers fiscaux les plus fortunés. Et là, l'IPP nous dit, bah, si on appliquait le barème de l'IR à l'ensemble des revenus de ces 75 milliardaires, clairement, hein, eh bien là, le taux serait de 59% en tenant compte de la CSG et de la CRDS. En fait, la conclusion, c'est de nous dire qu'on a un impôt qui est parfaitement progressif jusqu'à 99,9% des contribuables qui le payent. Et ensuite, effectivement, sur le 0,1, on commence à avoir quelque chose de régressif.
Qu'est-ce qui explique cette situation ?
Alors, ça s'explique parce que les Français dont on parle, l'essentiel de leurs revenus proviennent des bénéfices des entreprises qu'ils possèdent, bénéfices une fois que tout a été payé. Or, on sait bien en France que le taux d'impôt sur les sociétés n'est pas le taux d'impôt sur le revenu. Et en 2016, vous le rappelez, c'était 33%, maintenant c'est 25%. Et en fait, la réalité, c'est qu'après impôt, qu'est-ce qui se passe dans une entreprise ? L'argent va soit en investissement, soit en dividende, soit reste en cash. Et il est hyper logique que quand on prend ces 75 foyers emblématiques, eh bien, ils aient une déformation du taux complet d'impôt, parce que dans leur existence, le stock qui n'est pas distribué est proportionnellement beaucoup plus important dans l'ensemble de leurs revenus que pour le reste de la population.
En fait, on confond un peu flux et stock ?
Mais c'est ça le sujet. En fait, la question qui est posée, c'est est-ce que le résultat net des entreprises peut être assimilé à un revenu pour les milliardaires qui possèdent ces entreprises ? Et on a eu hier la réponse de Bercy. Bercy dit, la notion de revenu économique, qui est une notion qui est mise en avant par cette étude, le revenu économique, pour arriver à cette conclusion qu'il y a, à partir de, sur les 0,1%, il y a proportionnellement moins d'impôts qui sont payés. Donc cette notion de revenu économique, nous dit Bercy, ça n'est pas une notion fiscale. Ensuite, Bercy précise, le capital d'une entreprise n'est jamais disponible immédiatement, comme l'est le revenu. Bercy rappelle que la France a aujourd'hui le taux marginal de l'impôt sur le revenu le plus élevé des pays de l'OCDE, et Bercy rappelle que 10% des ménages paient à eux seuls, rapportent à eux seuls déjà 75% de la recette de l'impôt. Attention quand même à deux écueils quand on regarde cette étude. Le premier, c'est d'imaginer que la France est le paradis fiscal des ultra-riches, des milliardaires. En fait, l'IPP, qui fait un travail sérieux, nous indique que ces conclusions auxquelles ils arrivent sont des observations qui sont valables à peu près pour tous les pays d'Europe. Ce ne serait pas une spécificité française. Et puis aussi, attention de ne pas passer à côté de la complexité du sujet. J'admets que c'est complexe comme travail, comme observation, pour verser dans le réflexe basique qui consisterait à dire taxons les riches, parce que vous savez que c'est un sujet qu'on adore, voilà. Et d'ailleurs, attention globalement à ces idées qui s'installent généralement assez facilement dans l'opinion quand on parle de ce genre de sujet. Les très riches payent très peu d'impôts, de la même manière qu'on dit les pauvres n'en payent pas, ce qui est faux de la même manière. Attention au raccourci.
Oui, mais du coup, un chiffre comme ça, il peut être un argument tout cuit pour dire, voyez, il faut remettre l'ISF.
Et justement, l'Institut des politiques publiques nous dit que ce n'est absolument pas la solution de remettre l'ISF. D'ailleurs, on pourrait se dire, je vais monter l'impôt sur le revenu, mais vous montez l'impôt sur le revenu, on rate la cible. Parce que l'impôt sur le revenu ne pourra pas aller cibler cette partie qui est restée dans l'entreprise et qui n'a pas été distribuée. Et de la même manière, l'ISF n'est pas la solution. En 2012, le Conseil constitutionnel décide de plafonner l'ISF à 2/3 des revenus personnels et indique très clairement qu'on ne peut pas élargir l'ISF à des revenus dont le contribuable n'a pas la libre disponibilité. C'est ce que dit Bercy, d'ailleurs. Mmh. Et donc, ça veut dire que si vous mettiez un nouvel ISF, là aussi, il raterait sa cible. C'est exactement la raison qui faisait que DSK autrefois disait l'ISF, les millionnaires le payent, les milliardaires y échappent. Alors si on voulait vraiment une solution fiscale, on prend la solution américaine. La solution américaine effectivement fait que tout ce qui est logé, stocké, l'espèce de tirelire qu'on installe dans une holding, eh bien là-bas c'est taxé. En Europe, ce n'est pas possible. Il y a une directive qui s'appelle la directive FIMER qui fait que ce n'est pas possible. Et en France, ce serait compliqué parce que, encore une fois, la particularité avec les États-Unis, c'est qu'on a un taux de prélèvement obligatoire déjà record. On peut se permettre de faire certaines choses sur le terrain de la fiscalité quand on part de niveaux d'imposition relativement bas, chose que l'on ne peut plus faire quand on a atteint des niveaux records d'imposition.
Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas. Tout de suite, on jette un petit œil sur les marchés avant de revenir à nos considérations immobilières.
Votre rendez-vous avec Prime Alliance. Expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
Un petit coup d'œil sur ce marché qui perd 0,3% pour son indice phare, le CAC, 6187 points. L'Eurostock 50 est d'ailleurs dans les mêmes eaux, moins 0,36% en ce moment. Quelques valeurs qui se distinguent à la baisse, Hermès, Carrefour et Air Liquide, et puis quelques hausses tout de même, Téléperf, ST Micro et Vinci. L'Eurodoll est à 1,0684.
BFM Business, BFM Patrimoine, le Club Immo.
Le Club Immo avec Marie Cœur de Roy, Pascal Bonnefille et Pierre Chevillard. Deuxième mi-temps, on va parler d'autres choses aussi que ces histoires de CNR.
Pas sûr.
Et on vous rappelle l'émission spéciale dans laquelle vous serez à mes côtés avec beaucoup de plaisir, Marie.
Je vais changer de place, je préviens tout le monde, je serai assise à côté de Cédric.
Attention. Et de la promo.
Eh oui.
Ça vaudra son pesant de cacahuètes.
Allez, on parle d'autre chose. Un petit point crédit, Pierre, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie nos. Enfin, oui.
Vous allez encore me reparler. Je suis désolée. Hein, ouais.
Le crédit, c'est vrai que c'est le carburant du marché immobilier. On est toujours sur la même tendance vue depuis le début de l'année. C'est-à-dire que le taux d'usure, on en parlait tout à l'heure, remonte. Ouais. Donc, ça accompagne la hausse des taux. Alors, on se rapproche petit à petit d'un écart normal entre ce fameux taux d'usure et le taux de crédit immobilier. On devrait y être à peu près cet automne. Aujourd'hui, sur 20 ans, vous empruntez à peu près à 3,80. On est à 3,70 le mois dernier, à 2,80 en janvier, à 1% il y a une autre époque. Possible. Donc voilà, mais comme le taux d'usure empêche toujours les taux immobiliers de s'ajuster aux conditions de refinancement, le crédit n'est toujours pas rentable pour les banques. Donc les banques, elles se disent, j'ai pas de rentabilité. Comme la rentabilité rémunère le risque, eh bien, je ne prête qu'à ceux qui présentent le maximum de sécurité en termes de revenus, d'apport, mais aussi de logement. Et ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas oublier que le logement sert de garantie au crédit immobilier via l'hypothèque ou la caution, et que ça veut dire, par exemple, que si vous achetez une passoire thermique, il y a des banques qui vont vous demander 10% d'apport en plus, parce que si vous devez revendre en cas d'urgence et que vous n'avez pas fait les travaux, eh ben, vous allez décoter un logement et que vous ne pourrez pas rembourser la banque. Donc, c'est pour ça qu'on demande de l'apport, de l'épargne résiduelle.
Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans un... Alors, même si la baisse des prix n'est pas suffisante, mais on est dans un marché baissier. Donc, oui, les banques prêtées sur des biens qui vont nécessairement perdre de la valeur. Alors, dans quelle mesure et à quelle échéance, c'est le mystère. Mais voilà, la réalité, elle est là.
Après, on peut quand même emprunter, mais c'est ce qu'on appelle toujours. C'est-à-dire qu'il faut vraiment anticiper. 4 à 5 mois avant, vous allez purger vos comptes des découverts, rembourser vos crédits à la consommation, muscler votre apport personnel. Et l'idée, c'est d'arriver avec un dossier prêt à l'emploi chez les banques et surtout de se rendre... il faut montrer à la banque qu'on est un bon placement. La banque, quand elle vous prête de l'argent, elle vous considère comme un placement dont elle attend une rentabilité à 3,80 sur 20 ans. Donc, si vous lui montrez que vous êtes sûr de lui donner ces 3,80, bon, ça peut passer.
Mais... Pour rassurer et non pas inquiéter.
C'est ça, mais vous êtes un placement. Donc, si vous dites que c'est un mauvais placement, vous n'avez pas votre crédit.
Et est-ce qu'on peut imaginer que les choses évoluent? Enfin, on a une réunion du HCSF. Est-ce qu'on pourrait mettre un peu d'huile dans les rouages?
On dit beaucoup qu'ils vont assouplir les conditions de crédit. En fait, ça va être fait à la marge. Parce que les deux règles principales, le taux d'effort plafonné à 35% des revenus et la durée des crédits, ça ne devrait pas bouger. La seule chose qui pourrait bouger, c'est pour le financement des investisseurs où le mode de calcul, c'est très technique, pourrait être un peu assoupli et ce serait
mieux plus prendre en compte les revenus.
C'est ça. Et ce serait plus facile d'investir dans l'immobilier. Mais c'est à la marge. Je rappelle que l'investissement locatif en termes de marché, c'est entre 10 et 15% des ventes chaque année. Donc c'est à la marge. Mais
il y a un vrai sujet. Alors après, c'est assez compliqué de dire les choses parce que effectivement, encore une fois, c'est le problème, c'est que ce sont des mesures techniques. Donc si tout le monde zappe, voilà. Bon, en fait, il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à ces deux règles dont parlait Pierre, les banques ont la possibilité de déroger à ces règles dans 20% des cas. Aujourd'hui, on est à 14%.
Et donc, si elles voulaient le faire, elles seraient au taquet.
C'est ce qu'on peut se dire. Alors derrière, ce qu'on a cru comprendre aussi, c'est qu'ils ont une problématique. Les banques, c'est pas que elles veulent pas, c'est qu'aussi à l'intérieur de ces 20%, il y a des règles aussi. C'est-à-dire qu'il faut en priorité les primo accédants, ensuite les investisseurs, ensuite ceux qui achètent leur résidence secondaire. Donc en fait, quand je dis il y a 14%
sur les 20, le 14 est un peu déformé.
En fait, il est un peu déformé. Et donc la réalité, c'est que oui, les banques sont quand même preneuses d'un assouplissement des règles et effectivement, notamment en ce qui concerne les investisseurs, qui finalement sont ceux qui payent le plus cher. Parce qu'en réalité, privilégier les primo-accédants, attention, je vais me faire tuer là, ce que je vais dire. Le problème des primo-accédants, c'est que c'est aussi les publics les plus fragiles aujourd'hui.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, l'investisseur est plus rassurant.
Et donc les banques, quelque part, elles sont un peu prises entre deux feux avec l'idée, effectivement, faut financer les primo-accédants et il faut les favoriser. Il faut évidemment qu'ils soient prioritaires, ça c'est une réalité. Mais comment on fait aussi pour avoir des dossiers un peu plus solides et notamment les investisseurs locatifs? Donc ça, c'est un vrai sujet. Et donc effectivement, là-dessus, on pourrait avoir des modifications de règles. Alors par rapport à ce que disait Pierre aussi sur la règle des prises en compte des revenus aujourd'hui pour ceux qui font de l'investissement locatif, effectivement, c'est extrêmement compliqué. Mais pour résumer grossièrement, en gros, avant le changement de cette règle, il y a quoi? Il y a un an et demi, vous aviez une même opération, un même revenu, un même crédit, un même taux d'intérêt, etc. Il passait, vous étiez à, je sais pas, 32% d'endettement. Aujourd'hui, avec les mêmes règles, vous dépassez les 42%. En gros, vous avez exactement les mêmes règles, les mêmes critères financiers, que ce soit pour le prix d'achat, pour le taux d'intérêt, même si c'est pas vrai, mais bon voilà, en gros c'est pour résumer grossièrement, ce nouveau mode de calcul fait
parce qu'on ne prend plus, on donne plus autant de
de place.
En fait, c'est pas vraiment ça, mais si je vous fais les calculs, je vais perdre tout.
D'accord.
Oui, vous avez c'est compliqué.
Pour le résumer de façon très simple, puis un autre point de vue, c'est que par exemple, vous avez un taux d'effort à 35%. Si vous avez 25% de taux d'effort sur le remboursement de votre résidence principale, il vous reste loyer, futur loyer de votre investissement, donc on va dire 15%. Et là, vous dépassez le taux d'effort, c'est ça. En fait, c'est l'idée, il faut rester en dessous des 35%.
Je vous promets, pour vendredi, encore la promo
de notre émission de
vendredi, mais pour vendredi,
parce que c'est quand même pas
on a des infographies super fortes chez nous, je vais faire une super
infographie. C'est un petit peu complexe.
Ils vont être contents, les infographistes.
Oui. Mais si, on l'a déjà fait.
Bon, n'empêche que les primo-accédants, ils ont peut-être une solution.
Oui, moi je trouve que... on n'a parlé que de mauvaises nouvelles, il y a aussi des choses qui marchent. Et il y a un truc que je trouve extrêmement intéressant qui s'appelle le bail réel solidaire, le BRS. Je sens que Marie n'est pas totalement d'accord, mais moi je trouve que c'est quand même un système intéressant parce que c'est un système dont on parle depuis longtemps. L'idée c'est quoi? C'est dissocier le foncier, sur quoi vous êtes assis, de votre logement. Et vous n'achetez que le logement, et le foncier, lui, vous le louez à un organisme foncier solidaire, un OFS, on adore les abréviations dans le monde du logement. Et donc, votre loyer, il est forcément diminué, puisque comme vous n'achetez plus...
Il ne porte que sur le,
voilà.
sur
et
le
donc,
sol, quoi.
Grosso modo, c'est entre 15 et 40% d'économie par rapport au prix... classique, normal, entre guillemets. Oui, alors là aussi, évidemment, sont des...
Une TVA
sont,
5,5 sont aussi.
Des,
hein,
sont des, voilà, il y a la TVA. Évidemment, la TVA 5,5 fait qu'au lieu de 20, forcément, vous baissez un peu
ça
automatiquement.
Déjà, mais...
ça compte quand même. Avec, il y a quand même des conditions. Hein, il y a des plafonds, évidemment, de ressources, selon les zones, évidemment. La zone A, qui est la zone des grandes métropoles, de Paris, et des zones chères, on va dire. Et puis, les deux autres zones. Et aussi le nombre d'occupants qui vont occuper le logement. Il n'y en avait pas beaucoup qui étaient faits jusque-là, pas beaucoup du tout. C'est prévu par la loi Allure depuis un petit moment. Donc, il y en a quand même 600 qui ont été faits en 2022. Mm-hmm. Là, on me dit qu'il y en a 11 000 dans les tuyaux. Donc, ça prouve que quand même, ça commence un peu à monter en gamme. Et alors, il y a des calculs qui sont faits. Alors là aussi, c'est Action Logement qui nous fait un calcul avec des taux qui, à mon avis, sont un petit peu légers pour la situation, mais ça peut arriver encore. On peut emprunter à 3, Pierre, si on a un bon dossier, quand
à
même.
À 3, hein. Quand on est primo-accédant de BRS,
je
ne crois pas des masses.
Moi non plus, je n'y crois pas énormément.
On va plutôt être à 3,
c'est
60,
quand même 3, 80, voire 4, c'est la base de calcul que nous dit Action Logement, voilà. Mais je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, on va dire grosso modo, chez eux, hein, dans un calcul qu'ils font, il faut évidemment bien regarder tout ça, mais ils disent acquisition normale d'un 70 mètres carrés aux alentours avec une acquisition classique de 400 000 euros, un petit peu moins. Là, vous avez, avec un prêt normal à 3%, ça m'étonnerait que vous l'ayez, mais ça fait 1850 euros par mois. Actuellement, je pense que c'est plus. Et si vous achetez en BRS, ça serait aux alentours de 1065. Donc, vous voyez, il y a quand même une grosse différence.
Surtout si on n'a pas un prêt à 3%, mais à plus.
Voilà. Bon. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a...
Si je peux me permettre, sur le BRS, quand même, il y a quand même deux choses. D'abord, il faut se méfier parce que il l'a dit Pascal, hein, c'est-à-dire que vous avez à la fois le remboursement de votre crédit avec un montant qui sera 40% plus faible que ce que vous auriez payé en temps normal. Ok, mais en parallèle, vous avez cette fameuse location pour le foncier
qui rentre dans le taux d'effort.
Et attention, en fonction de là où vous allez acheter, loyer au mètre carré
peut être relativement élevé,
ce qui fait qu'entre vos mensualités de crédit plus ce loyer, vous pouvez être vraiment Rikiki, hein. Par ailleurs, on rappelle, c'est un outil anti-spéculatif. J'ai rien contre les outils anti-spéculatifs, c'est très très bien. Simplement, sachez-le, si vous achetez en BRS, lorsque vous revendrez votre bien, la plus-value sera encadrée. Vous ne pourrez pas revendre au plus offrant. Donc il faut quand même donner la mesure de ce dont on parle. Donc il faut à chaque fois, moi je connais des promoteurs qui font du BRS et qui m'ont dit, attention, il ne faut pas investir n'importe où, acheter n'importe où.
De toute façon, ça m'arrive même un peu, c'est l'alpha et l'oméga de tout. Hein.
Je sais bien, mais vous ne laissez pas non plus avoir... Par l'appât du 40% de réduction au départ.
Il ne faut pas oublier l'emplacement.
Mais toujours calculer le poids de votre loyer versus le poids de ce que va vous coûter d'acheter en BRS.
Mais ça peut, sur certains aspects, dans certains endroits, en calculant bien, en regardant bien ce dossier, ça peut être intéressant.
Bien sûr.
Allez, on avance parce que vous avez plein de sujets passionnants et c'est dommage d'en manquer. Parce qu'on est là aussi pour donner des bons conseils et aider les gens. On a dit que ça allait être difficile dans le monde du bâtiment, que donc peut-être certains vont engager engager des chantiers et une partie de leur argent et ça va faire faillite. Et qu'est-ce qu'on a
Le cabinet Alteres a publié des chiffres. Bon, il y a les défaillances chez les constructeurs sont 11,37% sur un an à avril. Chez les promoteurs, on est à 54%. Bon, voilà. Donc il y a des entreprises qui vont faillir. Alors, ce qui est intéressant, on parlait beaucoup du marché de la construction de maisons individuelles. Quand vous signez ce qu'on appelle un contrat de construction, loi de 90, vous avez obligatoirement ce qu'on appelle une garantie de livraison à prix et délai convenu. C'est-à-dire que si votre constructeur fait faillite, son garant va trouver et payer une autre entreprise pour terminer la maison. On a beaucoup parlé de faillite de constructeurs ces dernières années. Eh bien, tous les gens qui ont des chantiers engagés et qui ont signé ce contrat de construction verront leur maison terminée au prix et dans les délais convenus.
C'est le contrat délais, les délais, on est d'accord que c'est sur la théorie. Hein.
Ah oui.
C'est un système qui fonctionne. Oui. Les gens ont leur maison et c'est ça qui compte. Le problème, c'est que c'est un système qui va être déstabilisé avec la crise parce que comme il y a moins de constructeurs, eh bien vous allez avoir les pseudo-constructeurs, ceux qui construisent sans garantie. Ah oui, c'est moins cher, il n'y a pas les assurances à payer. Donc ils vont revenir et ça va exposer notamment les gens qui ont le moins d'argent et qui vont aller voir ce qu'on appelle des pseudo-maîtres d'œuvre, des pseudo-constructeurs.
Mais c'est attention, vraiment, ça, il faut vraiment dire aux gens, attention, attention, ne signez pas des contrats de ce type-là. Alors, ils peuvent mettre en cause même votre vie entière.
On peut le faire, par exemple, quand on passe avec un architecte. Mais avec un architecte, en général, vous ne pouvez pas emprunter sur plus de 20 ans. Non. Vous devez mettre un apport beaucoup plus important et vous devez avoir une épargne résiduelle beaucoup plus importante pour faire face à un éventuel arrêt de chantier, à la faillite d'une entreprise.
Donc, mais, attention.
Mais les architectes, ils ne font que 5% du marché. Les constructeurs, c'est 62%.
Oui.
Donc, si vous faites appel à un constructeur, vous êtes protégé. Le système fonctionne bien, il n'est pas tout à fait parfait, mais c'est un système qui est... D'ailleurs, c'est pas un hasard, la très grande majorité des banques préfèrent financer des contrats de construction, il y en a qui financent que ça, parce qu'il y a une certitude.
Raison.
Un petit détour par Paris, Pascal.
Paris sera
toujours Paris. On a parlé de PLU bioclimatique.
Eh oui. Alors, il a été adopté par le Conseil de Paris. Miracle.
Ça a été remuant.
Ça a été dur, ça a été compliqué, ça a été long. Il y a juste 3000 pages de projet, hein, de pages, alors, cartes, etc. Je sais que Marie l'a lu de A à Z et Pierre aussi.
En même temps qu'on suivait le brief de dimanche soir.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on va dire, il y a 300 hectares d'espace vert prévus. Promis, hein, bien sûr, hein, un objectif de 30% de logements sociaux d'ici 2035. Et la grande idée, c'est le PLU de la transformation. On va plus, voyez, on revient à cette idée, hein, c'est-à-dire que la construction, elle est devenue un peu tabou, et on va parler donc maintenant de transformation. Et donc, on va faciliter la transformation avec un sujet qui fait grand peur à beaucoup de foncières et de propriétaires parisiens, puisqu'il va y avoir des immeubles pastillés, comme on dit, hein. Et on en a recensé, alors tout le monde n'est pas tout à fait d'accord, mais enfin une bonne 600, semble-t-il, 600 immeubles pastillés, c'est-à-dire que c'est 40% d'immeubles de bureaux, hein. Et ils sont appelés à devenir des immeubles de logement, à terme.
Et avec... que uniquement si le propriétaire décide de faire des travaux.
Voilà. Alors le problème, donc c'est ça, c'est qu'on se dit ça va peut-être bloquer. Évidemment, les gens qui voudraient se lancer justement dans la merveilleuse transformation, restructuration, etc. C'est un peu le sujet parce que si vous êtes obligé de le transformer en immeuble de logement, il y a des endroits où ça peut se faire, dans le quartier central des affaires, par exemple, où les bureaux valent beaucoup d'argent. Forcément, c'est un
L'actif perd de sa valeur.
Ah ben.
Donc quel est l'intérêt pour le propriétaire qui a un très bel immeuble haussmannien, l'idée, bon, on va mettre 10, 20, 30% de logements sociaux. Son actif va perdre de la valeur. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il ne rénove pas?
Ah ben, bien entendu, surtout qu'encore une fois, dans le QCA, ce n'est pas 10, 20, 30%, mais c'est 50%, puisque dans ces quartiers de l'hypercentre parisien et du QCA, qui sont des endroits où il y a peu de logements sociaux par rapport au reste de la capitale, eh bien, il faudra que tout projet compte au moins 50% de logements sociaux. Bon. Donc ça fait quand même
les 300 hectares de parc.
Les 300 hectares, trouver, on en rêve.
Je vois pas bien où est-ce qu'on va trouver 300.
Ouais, alors après je ne prononce pas sur le sujet parce que je suis plutôt pour.
Moi aussi,
je crois que dans les 300 hectares, on compte toutes les cours privées qu'on va inciter à enlever les pavés pour récupérer la terre.
On va essayer d'en faire le plus possible. Ouais. Moi, je suis pour aussi.
C'est pas un grand parc de 300 hectares.
Non, c'est ambitieux.
Allez, on termine, il nous reste moins d'une minute, donc je sais pas, point innovation, le retour à la pierre de taille, deux immeubles innovants qui...
Juste deux minutes, alors je vais juste faire un petit clin d'œil aux promoteurs il y en a quelques-uns. On va les citer. Il y a Patrignani, il y a Verrecchia, il y a Provini, il y a Franco-Suisse, qui travaillent encore en pierre de taille. Donc, ça fait de très beaux immeubles. Pas forcément plus cher. Très belle architecture, reprise de l'haussmannien, l'architecture new-yorkaise, avec des matériaux locaux, géosourcés, les carrières sont dans l'Oise, si je me souviens bien, et ça donne de très très belles réalisations. C'est pour redonner, je crois que c'est à Noisy-le-Sec, Verrecchia avait été demandé pour redonner du lustre à un quartier qui architecturalement n'était pas top top.
Et c'est pas forcément absurde en matière de développement durable.
Mais c'est géosourcé, c'est écolo, c'est bas carbone, voilà. L'autre truc, c'est un petit clin d'œil à Pluriel Novilia qui vient de sortir un ensemble de 7 pavillons denses. Alors, sont écus, mais c'est du bois, de la paille, complètement bas carbone, des filières locales.
De la bois, de la paille et de la pierre. Vous nous faites les trois petits cochons.
C'est pour dire que ce qui est dommage, c'est qu'avec un secteur qui est en pleine mutation, on l'a vu, c'est un clin d'œil à Norbert Franchon, groupe Gambetta, avec son fameux programme en bois
qui sera là vendredi à
Bagneux.
On le salue.
C'est un secteur qui est extrêmement innovant et que c'est vraiment... C'est un crève-cœur de voir qu'il y a un secteur qui innove beaucoup et qui est martelé par une crise.
Eh bien, mettons en avant toute cette innovation. Et moi, je peux vous proposer à Lyon Confluence un immeuble, mes enfants, d'habitation. Ça sera la première fois, je crois, en France, qui sera sans chauffage, sans ventilation mécanique, sans climatisation. Et ça, c'est à Lyon Confluence. Vous savez qu'il y a cet endroit un peu à Lyon. Voilà. Alors, Cedex City, il y a 24 logements, c'est 6 niveaux. On va accompagner, ça sera livré en 2025, on va accompagner les gens pour qu'ils puissent fonctionner avec ce système-là. Oui, mais c'est intéressant. Non, je plaisante. L'immeuble va s'appeler 22-26. C'est-à-dire, l'idée, c'est que jamais la température ne soit au-dessus de 26 ou totalement en dessous de 22. Et donc, vous voyez, c'est un bel effort aussi, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que le logement, c'est novateur. Oui. C'est un secteur, il faut bien le voir, c'est un secteur où il peut y avoir beaucoup d'innovation au service des habitants. Parce que là, ça veut dire pas de frais de chauffage, pas de frais de clim, etc. Puis tout ça, c'est développement durable.
Merci beaucoup à tous les trois. Donc, Pierre Chevillard pour PAP, Pascal Bonnefille pour Imowic et Marie qu'on retrouve demain. Et notez d'ores et déjà l'émission spéciale de vendredi matin, 10h, 11h. Dans un instant, on file sur les marchés.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.